Audible Studio présente La roue du temps, tome 7, Une couronne d'épée, de Robert Jordan, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Arnaud Leridan. En nous, il ne peut rien y avoir de sain, et rien de bon ne peut se développer, car notre terre ne fait qu'une avec le dragon réincarné, alors que nous ne faisons qu'un avec elle. Âme de feu et cœur de pierre, le dragon conquiert fièrement, forçant les orgueilleux à courber l'échine. Devant lui, les montagnes s'agenouillent, les océans s'écartent et le ciel lui-même s'incline. Prions pour que son cœur de pierre sache encore pleurer et pour que son âme de feu soit encore capable d'aimer. Extrait d'une traduction très controversée des Prophéties du Dragon, signée par le poète Kiera Termandal de Chiota et publiée, pense-t-on, entre 700 et 800 à elle. Prologue. Des éclairs. À quelques 450 pieds de haut, soit pas très loin du sommet de la Tour Blanche, une grande fenêtre en forme d'arche offrait à Elaïda une vue imprenable sur Tarvalon et au-delà, sur les plaines moutonnantes et les forêts qui bordaient les rives de l'Erinine. Prenant sa source au nord-est, dans la colonne vertébrale du monde, le fleuve coulait d'abord vers l'ouest, puis, à partir de l'Arafel, descendait vers le sud, avant de se diviser en deux branches pour contourner les murs blancs de la grande île-cité. Au niveau du sol, les longues ombres du matin devaient s'étendre sur la ville, mais à cette altitude, tout semblait uniformément clair et lumineux. Les légendaires tours tronquées de Kaerienne elle-même ne réussissaient pas vraiment à rivaliser avec la Tour Blanche. Et bien entendu, quel que soit l'enthousiasme avec lequel on vantait leur majesté et leur passerelle aérienne, les autres tours de la cité étincelante n'y parvenaient pas davantage. À cette hauteur, la brise qui soufflait presque en permanence rendait plus supportable l'écrasante chaleur qui régnait sur le monde. La fête des lumières passée, un manteau de neige aurait dû recouvrir le sol. Pourtant, on se serait cru au milieu d'un été caniculaire. Un indice de plus, s'il en fallait un, prouvant que l'ultime bataille approchait et que le ténébreux avait de nouveau une influence très loin au-delà des limites de sa prison. Bien évidemment, même quand elle quittait son nid d'aigle, Elaïda ne se laissait pas affecter par la chaleur. Et si elle avait fait transférer ses quartiers si hauts dans des pièces très simples, malgré l'inconvénient des centaines de marches à gravir, ce n'était pas pour profiter du courant d'air. Les carreaux rouges du sol, très ordinaires, et les murs de marbre blanc ornés de quelques tapisseries, ne soutenaient pas la comparaison avec la splendeur du bureau et des appartements de la chère d'Amirline, de nombreux étages plus bas. Si elle utilisait encore ces pièces, pour certains esprits, elle restait associée au pouvoir de la dirigeante suprême, et Elaïda vivait et travaillait le plus souvent dans son nid. À cause de la vue, mais pas sur la ville, ni sur le fleuve ou sur les forêts. Non, ce qui la fascinait, c'était l'ouvrage en cours de construction dans le complexe même de la tour. Pour l'instant, seules des fondations s'étendaient sur ce qui était naguère la cour d'entraînement des champions. Autour, on distinguait de grandes grues de bois et des piles de blocs de marbre et de granit. Sur ce chantier, des maçons et des ouvriers allaient et venaient comme des fourmis, et de longues caravanes de chariots, chaque jour, franchissaient les portes du complexe pour apporter davantage de blocs. Sur un côté, se dressait une maquette géante du futur bâtiment, assez grande pour que des hommes puissent y entrer en s'accroupissant, histoire de voir tous les détails et de déterminer avec précision la position de chaque bloc. Une saine précaution, car la majorité des ouvriers étaient incapables de lire, qu'il s'agisse d'un texte ou des plans d'un architecte. Et la maquette géante avait autant d'emprise au sol que certains manoirs. Alors que toutes les têtes couronnées disposaient d'un palais, pourquoi la chère d'Amirline aurait-elle dû se contenter de quartiers à peine supérieurs à ceux d'un bon nombre de sœurs du Tout-Venant? Aussi majestueux que la Tour Blanche, le fief d'Elaïda serait surmonté d'une flèche plus haute de 60 pieds que le légendaire bâtiment. En entendant cette exigence, le maître d'œuvre avait blêmi, car la Tour Blanche avait été construite par des ogiers, avec l'aide de sœurs qui recouraient au pouvoir de l'unique. Mais un coup d'œil à l'expression d'Elaïda avait suffi à convaincre maître Lerman qu'il était inutile de discuter. Non sans bégayer un peu, il avait assuré que tout serait fait selon les désirs de la chère d'Amirline. Comme s'il avait eu une autre option, ce présomptueux. Elaïda eut une moue agacée. Elle aurait voulu engager des ogiers, comme en ce lointain passé. Mais les bâtisseurs, pour une raison inconnue, se tairaient dans leur sanctuaire. Quand Elaïda avait fermement fait appel aux membres du plus proche, le sanctuaire Jantuan dans les collines noires, elle avait essuyé un refus tout aussi ferme. Poli, certes, mais catégorique et sans explication, alors qu'il était adressé à la chair de Merlin. Les ogis avaient-ils simplement tendance à se renfermer sur eux-mêmes ou se retiraient-ils d'un monde devenu trop turbulent pour eux? Depuis toujours, ils restaient loin des conflits entre humains. Elaïda chassa les bâtisseurs de ses pensées. Depuis son plus jeune âge, elle se rengorgeait d'être capable de ne jamais pleurer sur le lait renversé. Les ogiers ne comptaient pas. Dans le monde, ils ne jouaient aucun rôle, à part celui, jadis, de constructeurs des villes, dont ils se tenaient loin désormais, sauf quand des réparations s'imposaient. En observant les ouvriers qui s'affairaient sur le chantier, Elaïda plissa le front. Les travaux avançaient avec une extraordinaire lenteur. S'il fallait tirer un trait sur les ogiers, ne pouvait-on pas recourir au pouvoir? Peu de sœurs maîtrisaient pour de bon les tissages de terre, mais pour renforcer la pierre ou lier des blocs entre eux, il n'y avait pas besoin d'une énorme puissance. Oui, dans l'esprit d'Elaïda, le palais était déjà terminé, avec ses galeries à colonnades, ses grands dômes dorés brillants et sa flèche qui tutoyait le ciel. Levant les yeux vers l'endroit où cette flèche, justement, transpercerait les nues, la chair d'Amerline s'autorisa un long soupir. Oui, c'était décidé. Elle donnerait l'ordre aujourd'hui même. Dans son dos, l'énorme horloge sonna le troisième lever. En écho, toutes les cloches et tous les gongs de la ville retentirent, leur son à peine audible à une telle altitude. Un sourire sur les lèvres, Elaïda se détourna de la fenêtre, tira sur sa robe de soie couleur crème rayée de rouge et ajusta sur ses épaules la large étole de la chair d'Amerline. Sur la grande horloge dorée, des figurines d'or, d'argent et d'émail se déplaçaient au rythme du carillon. À un niveau, des trolloques cornus, un museau en guise de visage, fuyaient devant une Aes Sedai en cape de voyage. Sur un autre, un homme censé représenter un faux dragon tentait de dévier les éclairs argentés que lui avait à l'évidence envoyé une autre Aes Sedai. Au-dessus du cadran, placé plus haut que la tête d'Elaïda, un roi et une reine, reconnaissables à leur couronne, s'agenouillaient devant une chair d'Amerline portant une étole en émail et campée sous une arche dorée que dominait une flamme de Tarvalon taillée dans une pierre de lune. Très peu encline à rire, Elaïda ne put s'empêcher de glousser de plaisir en observant l'horloge. Semail Sorentain, une chair d'Amerline issue de la Jagrie, avait commandé cette magnifique pièce d'horlogerie parce qu'elle rêvait de revenir à l'époque antérieure aux guerres des Trollocs, où aucun souverain ne pouvait être couronné sans l'approbation de la tour. Le plan ambitieux de Semail n'ayant jamais abouti, elle-même sombrant dans l'oubli, l'horloge était restée pendant 3 siècles dans une remise poussiéreuse, un objet plutôt compromettant que personne n'avait envie d'exhiber. Jusqu'à l'avènement d'Elaïda. La roue du temps tournait, et ce qui avait été pouvait être de nouveau. Devait être, dans ce cas précis. L'horloge faisait face à la porte du salon d'Elaïda, sa chambre et son boudoir se trouvant dans le prolongement. Des tapisseries aux couleurs vives du Candor, de Théar et de l'Arad d'Oman, des filaments d'or et d'argent se mêlant au fil de laine simplement teint, étaient accrochées les unes en face des autres. Au quart de pouce près, car Elaïda était depuis toujours une adepte de l'ordre et de la symétrie. Avec ses motifs rouges, verts et jaunes, le tapis de soie, les modèles les plus précieux, qui couvraient pratiquement le sol, venaient du Tarabone. Dans chaque coin de la pièce, un socle en marbre sculpté de banales lignes verticales soutenait un vase blanc en porcelaine, la spécialité si recherchée du peuple de la mer, contenant 2 douzaines de roses rouges soigneusement disposées. En cette saison, surtout avec la sécheresse et la chaleur inhabituelles, faire pousser des roses nécessitait de recourir au pouvoir. Et ça n'avait rien d'un gaspillage, selon Elaïda. Des sculptures dorées couvraient à la fois l'unique fauteuil, plus personne ne s'asseyait en présence de la chair d'Amerline désormais, et la table de travail. Mais ces ornements n'avaient rien à envier à l'austère sobriété si typique du Kairien. Une pièce très simple, vraiment, avec un plafond nu culminant à 6 pieds de haut. Mais jusqu'à l'achèvement du palais, ce serait suffisant. À cause de la vue, bien entendu. Elaïda s'assit, se calant contre le haut dossier orné d'une flamme de Tarvalon composée de pierres de lune, une sorte d'emblème flamboyant trônant au-dessus de sa tête brune. Sur la table de travail au plateau brillant, il n'y avait rien, à part 3 coffrets laqués d'Altara, alignés avec une précision extrême. Ouvrant celui qui était décoré de faucons dorés, évoluant parmi des nuages, Elaïda prit sur la pile de rapports et de lettres qu'il contenait un mince rectangle de parchemin. Pour ce qui devait bien être la centième fois, elle relut le message arrivé 12 jours plus tôt de Kairiyen par pigeon voyageur. Dans la tour, très peu de sœurs connaissaient l'existence de ce message. Et à part Elaïda, aucune n'était informée de son contenu, ou n'aurait eu la moindre idée de son sens dans le cas contraire. À cette idée, Elaïda faillit glousser pour la deuxième fois de la journée. L'anneau est en place dans les naseaux du taureau. Je mise sur un voyage des plus agréables jusqu'au marché. Aucune signature, mais ce n'était pas utile. Seule Galina Kasban avait pu envoyer ce glorieux message. Galina, la seule femme à qui Elaïda accordait autant sa confiance qu'à elle-même. Enfin, presque. En ce monde, elle ne se fiait aveuglément à personne. Mais la dirigeante de l'Aja Rouge restait l'être dont elle se méfiait le moins. Issue elle-même de cet Aja, elle continuait, même après son accession au poste suprême, à se considérer comme une sœur rouge. L'anneau est en place dans les naseaux du taureau. Randaltor, le dragon réincarné. L'homme qui avait semblé sur le point de s'approprier le monde, et qui en avait de toute façon déjà annexé une trop grande partie, était désormais isolé de la source, et soumis à la volonté de Galina. Et aucun des gens susceptibles de le soutenir n'en était informé. S'il y avait eu le moindre risque qu'il en aille autrement, le message de Galina aurait été formulé différemment. Selon des rapports antérieurs, il semblait qu'Altor avait redécouvert l'aptitude de voyager, un don perdu pour les Aes Sedai depuis la dislocation du monde. Eh bien, ça ne l'avait pas sauvé. Bien au contraire, cela avait joué en faveur de Galina. Altor ayant l'habitude d'aller et venir sans avertir personne, qui aurait pu soupçonner qu'il n'était pas parti de son plein gré? Pour la troisième fois de la journée, Elaïda faillit glousser. Dans une semaine, deux au maximum, le dragon réincarné serait à la tour, surveillé de près et dûment guidé par les sœurs jusqu'au début de Tarmon Gaidon, et enfin incapable de ravager le monde. S'il était irresponsable de laisser en liberté n'importe quel homme capable de canaliser le pouvoir, c'était de la folie furieuse lorsqu'il s'agissait de l'homme destiné à affronter le ténébreux lors de l'ultime bataille. En dépit de ce que semblait annoncer le climat aberrant, la lumière veuille que cet événement ne se produise pas avant de nombreuses années. Car des années ne seraient pas de trop pour préparer convenablement le monde, en commençant par défaire tout ce qu'avait fait Altor. Bien entendu, les dégâts qu'il avait provoqués n'étaient rien, comparés à ce qu'il aurait pu dévaster s'il était resté libre. Sans même mentionner la possibilité que cet imbécile se soit fait tuer avant d'avoir accompli son destin. Désormais, ce trublion deviendrait une sorte de nourrisson enveloppé de couches et blotti dans les bras de sa mère, jusqu'à ce que sonne l'heure de le conduire au mont Shayolghul. Après ça, s'il survivait... Elaïda fit la moue. Les prophéties du dragon semblaient annoncer que ça ne serait pas le cas, et elle ne voyait aucune raison de s'en plaindre.
« Mère ?»
En entendant la voix d'Alviarine, Elaïda manqua sursauter, entrer ainsi sans frapper.
« Mère, j'ai des nouvelles qui viennent des Aja. »
Mince, l'expression glaciale, Alviarine porta l'étole de la gardienne des chroniques, moins large que celle de la chair d'Amerline, et blanche comme sa robe, afin de signaler son Aja d'origine. Dans sa bouche, le mot « mère » ne sonnait pas comme un titre inspirant le respect, à croire qu'elle pensait s'adresser à une égale. L'irruption d'Alviarine suffit à gâter la bonne humeur d'Elaïda. Songer que sa gardienne venait de l'Aja blanc et non du rouge suffisait toujours à lui rappeler à quel point elle était faible au moment de son accession au poste suprême. Depuis, les choses avaient changé, mais pas assez à son goût, pour l'instant en tout cas. Et combien elle était fatiguée de regretter de ne pas avoir assez d'argent personnel, hormis en Andorre. Et de se lamenter parce que la chair d'Amerline et la gardienne destituée s'étaient enfuies. Avec de l'aide, ce n'était pas possible autrement, avant qu'on ait pu leur arracher les clés de leur tentaculaire réseau d'yeux et d'oreilles. Elaïda brûlait d'envie de contrôler ce réseau qui lui revenait de droit. Depuis que la tour existait, les Aja communiquaient à la gardienne les bribes d'informations provenant de leurs agents qu'ils étaient disposés à partager avec la chair d'Amerline. Alviarine, Elaïda en était convaincue, gardait par-devers elle une grande partie de ses miettes. Hélas, impossible de demander directement des informations aux Aja. Ajouter de la mendicité à la faiblesse n'aurait en rien arrangé la situation. Et puis, pas question de s'abaisser ainsi aux yeux du monde. Enfin, de la tour. Mais qu'est-ce qui comptait d'autre dans l'univers? Aussi glaciale que sa visiteuse, Elaïda la salua d'un signe de tête, tout en faisant mine d'étudier les documents qu'elle venait de sortir de son coffre laqué. Après avoir feuilleté la liasse, elle remit les pages en place, sans en avoir vraiment regardé une. Faire lambiner Alviarine était une amère victoire, une minable satisfaction,
alors qu'elle aurait dû avoir d'autres moyens d'aiguillonner une femme censée être à son service. Une chère dame Irline pouvait promulguer n'importe quel décret, puisque sa parole faisait loi. Mais en réalité, sans le soutien du hall de la tour, la plupart de ces décrets restaient des mots vides de sens, couchés sur du parchemin. Un beau gâchis d'encre. Ouvertement, aucune sœur n'aurait désobéi à la dirigeante suprême. Mais pour qu'une loi devienne effective, il fallait qu'une bonne centaine d'autres mesures l'accompagnent. Dans le meilleur des cas, ça demandait du temps. Parfois, il en fallait tellement que rien ne se passait. Le pire des cas, en quelque sorte. Alviarine semblait aussi calme qu'un étang gelé. Sans y ajouter le message qui annonçait son triomphe, Elaïda referma le coffret. La bande de parchemin lui faisait l'effet d'être un talisman.
Teslin et Jolin ont-elles enfin daigné nous annoncer autre chose que leur arrivée à bon port et sans fracas?
Une façon de rappeler à Alviarine que personne n'était à l'abri en sa présence. Nul ne se souciait de ce qui arrivait à Eboudar, et la chair d'Amerline encore moins que quiconque. Si la capitale de l'Altara avait sombré dans la mer, personne à part les marchands ne s'en serait aperçu. Oui, même pas les autres cités du pays. Mais Teslin avait siégé pendant 15 ans au hall de la tour, avant qu'Elaïda lui ordonne de démissionner. Si la chère dame Irline avait le pouvoir d'envoyer comme ambassadrice dans un pays si ridicule une représentante rouge, qui l'avait soutenue lors de sa marche vers le pouvoir, et ce sans que nul ne sache pourquoi, même si les rumeurs les plus variées allaient bon train, elle pouvait s'attaquer avec succès à n'importe qui. Jolin, c'était une autre histoire. Les sœurs vertes l'avaient nommée représentante depuis quelques semaines seulement, la choisissant, tout le monde l'aurait juré, pour montrer que la nouvelle chair d'Amerline ne les intimidait pas. Du coup, Elaïda avait frappé très fort, punissant cruellement Jolin. La moindre manifestation d'insolence devait être durement réprimée, bien entendu. Et la chair d'Amerline n'était pas du genre à s'en laisser compter. Ça aussi, tout le monde le savait. Face à cette remarque, censé souligner sa vulnérabilité, Alviarine se contenta d'un sourire aussi glacial que le reste de sa personne. Tant que le hall resterait tel qu'il était, elle serait bel et bien à l'abri. De la liasse de documents qu'elle tenait, elle sortit une feuille.
« Rien de neuf venant de Jolin et Teslin, mère. Mais avec les nouvelles que tu as reçues des autres royaumes jusque-là... »
Le sourire d'Alviarine exprima quelque chose qui ressemblait désagréablement à de la jubilation.
« Tous ces gens déploient leurs ailes. » Histoire de voir si tu es assez forte que celle que tu as remplacée.
Même Alviarine avait assez de bon sens pour ne pas prononcer le nom de Suan Sanche devant Elaïda. Cela dit, la remarque était juste. Les rois, les reines et même les simples nobles entendaient éprouver les limites du pouvoir de la nouvelle chair d'Amerline. Il allait falloir faire des exemples. Alviarine jeta un coup d'œil à sa feuille et continua.
Il y a quand même des nouvelles des Boudards, par l'intermédiaire des Sœurs Grises.
Une précision visant à enfoncer le couteau dans la plaie?
Elaine Trakan de Nineveh Almehara sont dans la capitale, semble-t-il. Elles jouent aux vraies sœurs avec la bénédiction de la délégation envoyée par les rebelles auprès de la reine Tailin. Il y a 2 autres femmes qui font peut-être la même chose. La liste des renégates est incomplète. Il peut s'agir simplement d'amis qui les accompagnent. Les sœurs grises ne sont sûres de rien. Au nom de la lumière! Que ficherait-elle à Eboudar, ces deux-là?
Lança Elaïda. Teslin l'aurait au moins informé de ça.
Voilà que les sœurs grises font circuler des rumeurs à présent. Le message de Tarna affirme qu'Elaine et Nineveh sont à Salidar, avec les renégates.
Tarna Feir indiquait que Siouan Sanche y était aussi. Tout comme Logain Ablar, occupé à répandre des mensonges vicieux qu'aucune sœur rouge digne de ce nom ne pouvait s'abaisser à entendre. Siouan Sanche était mêlé à cette obscénité. Dans le cas contraire, le soleil se lèverait à l'ouest le lendemain. Pourquoi cette femme ne s'était-elle pas contentée de disparaître et de crever dans son coin, comme toutes les autres sœurs calmées? Elaïda dut fournir un gros effort pour ne pas prendre une profonde inspiration. Une fois les renégates matées, Logain finirait au bout d'une corde. De toute façon, la plupart des gens le croyaient mort depuis longtemps. La scandaleuse rumeur selon laquelle les sœurs rouges avaient fait de lui un faux dragon s'éteindrait dès qu'il aurait rendu le dernier soupir. Les renégates étant vaincus, Suan Sanche pourrait être convaincu de livrer à Elaïda son réseau d'agents et de donner les noms des traîtresses qui l'avaient aidé à fuir. Hélas, l'espoir de voir figurer Alviarine sur cette liste était des plus fallacieux.
Je vois très mal cette Almehara courir à Eboudar pour crier sur tous les toits qu'elle est une Aes Sedai. Idem pour Elaine. Qu'en penses-tu? Mère, tu as bel et bien ordonné qu'on trouve Elaine Trakand. À t'entendre, c'était aussi important que de passer un collier autour du cou d'Altor. Quand la fille héritière était à Salidar, parmi 300 sœurs renégates, il n'y avait rien à faire. Mais au palais Tarassine, elle sera moins bien protégée. « Je n'ai pas de temps à perdre avec les rumeurs !»
s'écria Elaïda, méprisante. Que signifiait cette histoire de collier au sujet d'Altor? Alviarine en savait-elle un peu trop long?
« Je te suggère de relire le rapport de Tarna, ma fille. Ensuite, demande-toi si des sœurs, même renégates, permettraient à les accepter de porter indûment le châle. »
Avec une patience appuyée, Alviarine attendit la fin de la tirade, puis elle tira 4 autres feuilles de sa liasse.
« L'agent des sœurs grises a envoyé des croquis, »
dit-elle en tendant les feuilles à Elaïda.
« Ce n'est pas un grand artiste, mais on reconnaît très bien Elaine et Nineveh. »
Voyant qu'Elaïda ne les prenait pas, la gardienne remit les feuilles dans sa liasse. La chère dame Irline sentit qu'elle s'empourprait de colère et d'embarras. En ne lui montrant pas tout de suite des croquis, Alviarine lui avait tendu un piège. Eh bien, tant pis. Revenir en arrière aurait été plus humiliant encore.
« Qu'on capture ces femmes et qu'on me les amène !»
L'absence totale de réaction chez Alviarine incita Elaïda à se demander une fois de plus si la gardienne ne savait pas des choses qu'elle aurait dû ignorer. Venant du même village que lui, Almehara pouvait être utile pour contrôler Altor. Toutes les sœurs savaient ça, comme elles savaient qu'Elaine était la fille héritière d'Andor. Une héritière désormais orpheline, puisque Morgaz était morte. Les rumeurs qui l'associaient au Cap Blanche étaient en effet absurdes. Morgaz n'aurait jamais demandé de l'aide au Fils de la Lumière. Elle était morte, son cadavre introuvable, et Elaine la remplacerait. S'il était possible de les arracher aux griffes des renégates avant que les maisons nobles andoriennes aient installé Daelin sur le trône du lion. Tout ça était de notoriété publique. En revanche, peu de gens savaient pourquoi Elaine était plus importante que toute autre prétendante à la couronne, outre le fait qu'elle serait un jour une Aes Sedai, bien entendu. Elaïda avait parfois le don de prédiction, une aptitude qu'on avait longtemps cru perdue, avant qu'elle démontre le contraire. Dans un lointain passé, elle avait annoncé que la maison royale d'Andorre serait la clé de la victoire lors de l'ultime bataille. Quelques 25 ans plus tôt, lorsqu'il était devenu évident que Morgaz Trakhand sortirait gagnante de la guerre de succession, Elaïda s'était liée à celle qui n'était alors qu'une jeune fille. Quel rôle jouerait Elaine dans tout ça? La chère dame Irline n'aurait su le dire, mais les prédictions ne mentaient jamais. Souvent, elle fulminait contre ce don, comme contre tout ce qu'elle n'était pas en mesure de contrôler.
« En fait, je les veux toutes les 4, Alviarine. »
Les 2 autres femmes n'avaient sûrement aucune importance. Mais pourquoi prendre des risques?
« Transmets sans tarder mon ordre à Tesline. Dis-lui, et à Jolyne aussi, qu'elles regretteront d'être nées si je ne commence pas à recevoir des rapports réguliers. Et fais leur part des informations de maîtresse Makura. »
En prononçant ce nom, Elaïda fit une moue révulsée. Alviarine eut un mouvement de recul, et ça n'avait rien d'étonnant. L'infusion très particulière de Rande Makura n'avait rien pour mettre une sœur à l'aise. La fourche racine n'était pas mortelle. Quand on en buvait assez pour dormir, on se réveillait. Mais son action principale, empêcher une femme de canaliser le pouvoir, semblait viser bien trop directement les Aes Sedai. Dommage que cette information ne soit pas arrivée avant le départ de Galina. Si l'infusion fonctionnait aussi bien sur les hommes que sur les femmes, ça lui aurait rudement facilité la tâche. Alviarine se ressaisit très vite, redevenant une statue de glace.
« Compte sur moi, mère. Je suis sûr que Tesline et Jolyne obéiront promptement, comme il se doit. »
Elaïda eut comme une flambée d'agacement, un peu à la façon dont le feu se propage dans une prairie desséchée. Alors qu'elle tenait entre ses mains le destin du monde, de ridicules obstacles ne cessaient de se dresser sur son chemin. Devoir affronter des renégates et des souverains récalcitrants était déjà assez agaçant. Mais il y avait aussi toutes ces représentantes encore indécises, qui constituaient un précieux terreau pour Alviarine. Alors qu'elle n'en contrôlait que 6, au moins autant, elle l'aurait parié, prenait l'avis d'Alviarine avant de voter. Sans l'accord de la gardienne, le hall ne promulguait rien, c'était évident. Rien n'était visible, bien sûr, aucun indice ne laissant penser qu'Alviarine détenait plus de pouvoir qu'il était raisonnable dans sa position. Mais quand elle s'opposait à quelque chose... Au moins, le hall n'était jamais allé jusqu'à rejeter une injonction d'Elaïda. Traînant les pieds, les représentantes se contentaient de laisser mourir les braises sur lesquelles elles auraient dû souffler. Une piètre consolation. Cela dit, certaines chères d'Amérine avaient fini par devenir des marionnettes, une fois que le hall avait pris goût à censurer tout ce qu'elle pouvait proposer. Elaïda serra les poings, faisant crisser le message de Galina entre ses doigts. L'anneau est en place dans les naseaux du taureau. Alviarine était toujours aussi imperturbable, mais Elaïda ne s'en souciait plus. Galina était en route pour Tarvalon. Bientôt, les renégates seraient vaincus, le hall devrait en rabattre, Alviarine serait forcée à se prosterner et tous les souverains récalcitrants avec elle. De la reine Ténobia du Saldaea, qui se cachait pour éviter ses émissaires, au roi Matin Stepaneos de Liliane, un petit malin qui tentait de jouer sur tous les tableaux, prétendant être d'accord avec elle et avec les capes blanches, sans compter Altor tant qu'il y était. À sa place, sur le trône, à Kemlin, sans son frère pour lui souffler de mauvaises pensées, Elaine saurait parfaitement à qui elle devait sa position, et elle se tiendrait tranquille. Un petit séjour à la tour, avant son couronnement, suffirait à lui mettre les idées en place une bonne fois pour toutes.